La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour. Je me suis attaché à faire ressortir la prononciation exacte telle qu'on l'entend de la bouche des indigènes. Cette phrase, qui est de Moussa Travellé, on la trouve dans le petit manuel français Bambara qui est paru en 1910 et que ce Moussa Travellé a fait paraître sous la direction ou en gros l'autorité morale et intellectuelle d'un grand linguiste qui était Maurice de la Fosse. Et de la bouche des indigènes, c'est le nom d'un ouvrage paru tout récemment aux éditions Vendémiaire. Un ouvrage de Cécile van den Haven qui est sous-titré « Échanges linguistiques en Afrique coloniale » et qui retrace justement l'historique, l'itinéraire qu'on a pu prendre pour communiquer entre colons européens et en particulier français et africains. Alors Cécile van den Haven, eh bien elle est là dans la danse des mots pour nous parler de son travail. Bonjour Cécile van den Haven.
Bonjour.
Merci d'être là et merci pour votre livre qui est tout à fait passionnant, dans lequel on apprend beaucoup de choses, même quand on croit en savoir quelques-unes. Entre autres choses, on apprend que justement pendant la période de cette colonisation, c'est-à-dire en gros tout le 19e siècle et le début du 20e, ou même la première moitié du 20e siècle, il n'y a pas une langue africaine qui a été élue d'une certaine façon par le colonisateur français comme étant la langue africaine, même si c'était faux, comme étant la langue qu'on allait utiliser pour communiquer avec les Africains. Et là, je parle quand même essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, parce que vous parlez peu de l'Afrique centrale dans votre livre, mais l'Afrique de l'Ouest, c'est grand, hein, c'était le Soudan français et même plus.
Alors effectivement, aucune... l'autorité coloniale française n'a jamais pensé une politique linguistique qui s'appuierait sur une langue africaine ou sur des langues africaines. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, sur lequel se concentre mon livre, ou que ce soit d'ailleurs en Afrique centrale. Cependant, on trouve, et notamment dans les premiers temps qui précèdent en fait la mise en place de l'appareil administratif colonial, des traces d'utilisation de certaines langues africaines, et plus particulièrement d'une langue africaine, qui est celle qui me sert un peu de fil directeur dans ce livre.
Qu'on peut appeler, oui, le Bambara, mais qu'on appelle de façon plus générale le Mandinkan, puisqu'il n'y a pas vraiment un Bambara, mais il y a beaucoup de variantes de cette matrice linguistique.
Absolument. Je préfère utiliser un terme qui est un terme un peu générique, qui est le terme mandingue, tel qu'il s'est stabilisé plutôt dans les écrits coloniaux, mais qui effectivement regroupe à la fois ce qu'on appelle le Bambara, aussi dans les écrits coloniaux, parce que c'est pas comme ça que les gens sur place l'appellent, mais aussi le Dioula, le Mandinke, Mandingo, selon ce qu'on trouve dans les sources.
Oui, et d'ailleurs, je rappellerai que nous avons ici à RFI une rédaction qu'on appelle la rédaction mandingue et non pas la rédaction bambara. Donc, cette langue ou ces langues ont pu servir plus ou moins de véhicule, de langue véhiculaire, c'est-à-dire de langue pont entre des gens dont ce n'était pas la langue maternelle, ni pour les uns, ni pour les autres. Comment est-ce qu'on le sait tout ça? Quelles traces on en a par des Africains ou par des explorateurs, des missionnaires, des colonisateurs français?
Alors les toutes premières traces qu'on peut avoir de ces usages de la langue mandingue comme langue de contact, c'est dans des écrits d'explorateurs de la fin du XVIIIe siècle. Donc à un moment qui n'est pas encore un moment colonial, mais qui correspond à un moment où il y a encore la traite esclavagiste atlantique et où les Européens sont essentiellement sur les côtes et font du commerce d'hommes, avec des commerçants qui, eux, ramènent des esclaves depuis le centre du continent. Les premières traces qu'on a, et notamment c'est par là que je commence dans cet ouvrage, c'est notamment dans le récit d'exploration très connu de Mungo Park, hein, Voyage à l'intérieur de l'Afrique, qui date de la fin du XVIIIe siècle.
Et donc, était où, lui? C'était le Fouta Diallo, Guinée, le Sénégal.
Il est parti de ce qu'on appelait la Sénégambie, hein, mm-hmm. donc au niveau de l'embouchure de la Gambie. Et puis son voyage d'exploration visait à reconnaître en fait le cours du Niger, donc à reconnaître dans quel sens courait le Niger, parce qu'on le savait pas à l'époque. Et donc il remonte en fait à peu près jusqu'au niveau de Djéné au Mali actuel, hein, pour sa première expédition, avant de faire demi-tour, en fait.
Et puis on a d'autres traces qui nous viennent de ces explorateurs ou de ces premiers colons, Théodore Mollier, et ensuite Louis-Gustave Binger, qui fait un essai sur la langue bambara. Alors de quoi s'agit-il dans cet essai? Quel est son propos, en fait?
Alors effectivement, toutes premières descriptions qu'on a de la langue bambara, elles sont quasi contemporaines. Elles sont d'une part le fait de Louis-Gustave Binger. Alors on prononce plutôt son nom de façon très française. Alors qu'effectivement il est alsacien. Absolument. Et qui publie dans les années 1880 un essai de la langue bambara, qui est une sorte de première description en fait de la langue, qu'il fait à l'intention en fait de ceux qui vont ensuite aller vers l'intérieur du continent, et qui est vraiment une esquisse grammaticale très succincte que les linguistes actuels spécialistes des langues mandingues trouvent particulièrement fautive, mais que pour ma part j'avais trouvé intéressante parce que elle documentait moins la langue bambara que ce que un Européen à l'époque, dans un contexte informel, pouvait apprendre de cette langue-là.
Je pense que les fautes sont très pédagogiques, c'est-à-dire elles nous indiquent quelle était l'opinion, l'idéologie, la mentalité, la façon de voir de la part de l'Européen qui arrive en Afrique. Qu'est-ce qu'il perçoit de cette langue qu'il ne parle pas? Ça nous donne une bonne orientation sur sa façon de voir les choses.
Oui, et ça nous donne aussi une idée de avec qui il est en contact pour pouvoir apprendre et parler cette langue. Et ce que ça nous, enfin, les indices qu'on peut avoir, c'est que très souvent, ces Européens étaient en contact avec plutôt des jeunes gens, en fait, qui, par exemple, leur servaient de domestiques, et éventuellement des jeunes gens dont les langues qu'ils décrivent, parce qu'il y a d'autres cas que ce cas-là, sont pas forcément la langue première, qui est déjà une langue seconde, une langue véhiculaire. Donc, il bricole à partir de ces contacts-là qu'ils ont avec des locuteurs particuliers.
Alors tout ça se passe au temps de la colonisation, et qui dit colonisation dit présence militaire, bien sûr. Il y a un personnage tout à fait important qui était un haut commandant militaire, c'est Faidherbe. Qu'est-ce qu'il avait comme... Il s'est mêlé de langue, ça l'intéressait. Alors en gros, quelle est son opinion à Faidherbe? Qu'est-ce qu'il pense des langues africaines, et qu'est-ce qu'il pense des langues qui doivent se bricoler, disons, pour permettre une communication entre le colon militaire et l'Africain colonisé fraîchement?
Alors le cas de Faidherbe est intéressant parce que c'est quelqu'un qui à la fois a participé à la conquête de l'Afrique du Nord avant de se retrouver en Afrique subsaharienne, qui a des compétences d'arabisant en fait, hein, qu'il ensuite met au service aussi de ce qu'il fait sur les langues africaines, et qui, tout militaire qu'il est intéressé par les langues. Alors même que, alors c'est vrai que je me suis intéressée à des militaires qui s'intéressent aux langues, mais quand on regarde parmi ce personnel militaire, ils ne sont pas si nombreux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chez ces militaires du tout début en fait de la conquête coloniale, il y a l'idée qu'il faut passer en fait par les langues africaines et par des éléments de la culture locale pour pouvoir aider à la pénétration coloniale. Ce qui ensuite, dans la façon dont sera mis en place l'appareil administratif colonial français, va complètement disparaître en fait, avec plutôt un discours sur le français comme la langue de civilisation, quoi. Thank you.
Le beau tremblé du trompettiste Jacques Courcil dans ce morceau Gorée qui évoque donc cette île tristement célèbre parce que c'était l'un des points de départ très importants de la traite négrière. Il n'empêche que c'est une très belle île au large de Dakar qui nous permet de revenir avec vous, Cécile van der Haven, à la bouche même des indigènes, c'est-à-dire à la façon dont les indigènes, c'est comme ça qu'on appelait les Africains à l'époque, pouvaient communiquer avec le colonisateur qui arrivait. Alors, ils communiquaient comment et pourquoi? Il y a un mot important, très souvent associé justement à cette oralité africaine, c'est la palabre ou les palabres. Vous en parlez pas mal dans votre livre. Comment est-ce que les Européens qui arrivaient en Afrique ont pris conscience de l'importance de ces traditions de communication orale et en particulier de ces discussions de palabres?
Alors c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à ce terme. Je suis partie du terme palabre parce que c'est un terme qui m'intéressait dans la mesure où c'est un terme du vocabulaire colonial, du français colonial, qui a un emprunt à l'espagnol, qui n'a pas vraiment d'équivalent dans les langues locales. Et qui en même temps, alors qui au départ renvoie à, enfin sert à spécifier la façon dont se faisaient les échanges commerciaux, hein, et qui a des acceptations à la fois pour certaines péjoratives. La palabre, c'est ce qui, c'est ce qu'on ne comprend pas quand on est européen, c'est ces longues discussions avec
oui,
des
c'est
chefs.
C'est la parole qui n'en finit pas. Quoi.
C'est la parole qui n'en finit pas. C'est celle où on essaye de voilà de vous embobiner, de vous entortiller dans la parole. Et en même temps, ça a été aussi quelque chose de positivé par un certain nombre, notamment d'administrateurs coloniaux, comme étant une forme de gouvernance, dirait-on aujourd'hui, adaptée à la façon dont se traitent un certain nombre de questions de justice, politique, etc., localement, hein, et une façon de se couler dans les habitus locaux de la gouvernance politique. Et donc j'ai essayé de suivre un peu cette trace de la palabre dans différents textes et chez différents acteurs de ce contact colonial, à la fois dans ces acceptations voilà, négatives quand c'est une façon de quand les Européens ont l'impression de perdre du temps, en fait. Et puis dans ces acceptations positives, quand au contraire, on met l'accent sur le fait qu'il faut savoir prendre le temps de la discussion pour se faire comprendre, à des fins qui sont des fins stratégiques d'acceptation du pouvoir colonial. Bon.
Alors, il est sûr que les Français, comme les autres Européens qui mettent le pied sur le sol africain, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent dominer. Pour dominer, de temps en temps, il faut un certain nombre de traités. Vous parlez des palabres, vous parlez aussi des traités. Ces traités qui assurent l'expansion coloniale française et qui assurent ce qu'on appelle parfois le protectorat, en quelle langue ont-ils été rédigés et à partir de discussions qui se faisaient justement dans quelle langue?
Alors j'ai suivi comme ça, un personnage qui fait signer une série de traités, Monteil, qui fait signer une série de traités suite à la conférence de Berlin qui en fait consacre une sorte de partage de l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque traité signé avec un chef localement est l'objet d'une négociation et d'une négociation sémantique en fait sur les termes du traité. Et d'une négociation partagée. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans le cas français, par rapport au cas britannique, par exemple, même si j'idéalise ni le cas français, ni le cas britannique, c'est que les Britanniques arrivaient avec des traités tout faits qu'ils faisaient signer, en fait. Et les Français, à chaque fois, chaque traité est adapté, enfin voilà, est une trace de ce
on
qui s'est passé
plus au coup par coup
voilà,
chez les Français.
Ce qui s'est passé localement, en fait, dans une interaction précise, avec des chefs précis, etc. Et la langue qui sert pour l'écriture des traités, en fait, c'est l'arabe, parce que c'est la langue des lettrés, localement, en Afrique de l'Ouest. Et donc, les traités sont écrits en arabe.
Alors, comment est-ce que vous expliquez, justement, qu'il n'y ait pas de créole en Afrique occidentale? Vous allez me dire, il y en a quelques-uns. Par exemple, au Cap-Vert, c'est un créole à base lexicale portugaise. Mm. Il a pris pied sur le continent, en particulier au sud du Sénégal, en Casamance, il n'y en a pratiquement plus, etc. Mais c'est pas un créole français. Il n'y a pas eu de créole à base lexicale française. Des pidgins, soit, des créoles, non. Mmh. Pourquoi, à votre avis?
C'est vrai que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Les conditions, en fait, sociolinguistiques, qui sont celles de la coprésence française-africaine dans ces zones-là, permettait pas l'émergence d'un créole. Les gens qui ont travaillé sur les émergences de créoles montrent bien que c'est dans des contextes très particuliers. Souvent, c'est dans des îles. D'ailleurs, vous m'avez cité le Cap Vert. Souvent, c'est dans un contexte où il y a un contexte servile, c'est-à-dire on fait venir en fait rapidement des populations qui sont des populations transplantées à qui qu'on met dans une situation d'esclavage, qu'on fait travailler
et qui n'ont pas les mêmes langues.
Qui n'ont pas les mêmes langues.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vraiment se comprendre grâce à une langue maternelle commune.
Absolument. Et qui, dans ce contexte-là, sont obligés d'apprendre très vite la langue, qui est la langue du maître, et qui l'apprennent de façon approximative, dans un contexte qui est un contexte...
Et en gardant bien souvent des traces importantes de la syntaxe de leur langue d'origine.
Oui, alors ça, je ne rentrerai pas dans cette question-là, parce que c'est un gros sujet de discorde chez les créolistes, et je ne suis pas créoliste.
Bon, alors... Bien que n'étant pas créoliste, dites-nous, non pas ce que c'est qu'un créole, on vient d'en parler, mais ce que c'est qu'un pidgin alors. Parce que c'est pas la même chose,
non,
le pidgin et le créole.
Effectivement, c'est pas la même chose. On parle de pidgin pour des variétés de langues. Alors, en l'occurrence, c'est les langues européennes, donc qui sont dans ce contexte-là, qui vont être utilisées avec des fonctions réduites, c'est-à-dire essentiellement pour des fonctions de communication, de commerce, ou pour savoir répondre à des ordres, voilà, avec des fonctions sociales réduites, et qui du coup ont aussi une syntaxe qui est une syntaxe réduite et un lexique qui est un lexique réduit. Voilà, c'est une variété. Simplifié.
Tout à l'heure, voilà Togo, un morceau du contrebassiste et compositeur Henri Texier, qui nous ramène donc en Afrique de l'Ouest, Cécile Vandenhaven. Comme vous le disiez tout à l'heure, dans cette Afrique nouvellement colonisée, on commerce ou on commande. Alors, dans quelle langue commande-t-on? Vous parlez à la fois du bambara militaire et du français tirailleur. Est-ce que ces deux idiomes, ou ces deux façons de bricoler une langue de contact sont symétriques?
Non, je dirais on peut pas dire ça. D'une part parce que l'une est une langue locale, hein, et que voilà, la façon de La manière dont le bambara, par exemple, a pu être utilisé à l'intérieur de l'armée coloniale, comme une langue qui permettait aux tirailleurs entre eux, quelle que soit leur origine, de converser entre eux, la manière dont certains officiers français ont pu apprendre des bribes de bambara, c'est plus compliqué à documenter, montre bien qu'il y a des formes d'appropriation de quelque chose qui est une langue africaine, etc. Dans le cas du français tirailleur, on est dans quelque chose qui est vraiment très différent, dans la mesure où, à la fois, alors c'est une variété de langue simplifiée, certes, mais c'est une variété de langue aussi qui a été presque volontairement simplifiée, en fait, de manière même assez stéréotypée.
Et pas forcément très efficace.
Et ça, pas c'est forcément tout à fait, très oui. efficace.
Parce que sont les Français qui ont inventé le type de formule simplifiée dont ils pensaient qu'elle serait plus facilement compréhensible. C'est-à-dire utiliser, par exemple, tous les verbes à l'infinitif, dire « moi » à la place de « je ». C'est-à-dire, c'est très révélateur d'une façon de plaquer une idéologie sur une langue qu'on bricole.
Oui, alors c'est vrai que une des premières archives sur lesquelles j'avais travaillé qui m'avait un peu donné envie d'aller un peu plus loin pour faire ce livre, c'est un manuel de français tirailleurs qui a été publié pendant la Première Guerre mondiale et qui est un manuel qui est à destination des officiers français et qui vise à leur apprendre à parler la variété de français dont on pense qu'elle est adaptée à ce qu'on doit parler aux tirailleurs sénégalais, dans la mesure où ils seraient incapables de comprendre une variété de français qui serait une variété de français correcte. Donc là, évidemment, c'est sous-tendu. Ça a été appelé une variété idéologique de français.
C'est vrai.
Sous-tendu par l'idée que ces tirailleurs seraient incapables de maîtriser
la langue française. Oui, d'entrer dans les subtilités de cette langue en action. Ce qui fait qu'on projette une espèce d'idée toute faite d'un niveau zéro de la langue.
C'est ça, oui. Et qui est vraiment... alors, en plus, avec des justifications assez alambiquées sur le fait que ça serait du français coulé dans la syntaxe du bambara.
Ça, c'est du fantasme, quand même.
Ce qui est un pur fantasme, mais qui laisse aussi apparaître une autre idée sous-jacente, à savoir que le bambara serait une langue assez simple, parce que c'est aussi
une langue
africaine.
Mais oui, c'est encore une projection raciste, très révélateur des comportements et des mentalités de l'époque, quoi.
De l'époque, et je pense...
C'est une époque qui a duré longtemps, c'est ça que vous voulez dire.
Oui.
Bon, certainement. Alors, voilà pour les militaires et les missionnaires. Alors, parce que parmi les premiers colons, il y a quand même eu beaucoup de gens d'église qui sont venus là pour ramener les Africains dans le giron du christianisme. Quel rapport à la langue ont-ils eu?
Alors, effectivement, les tout premiers à avoir décrit les langues africaines, c'est... Les militaires dans une moindre mesure, mais surtout les missionnaires, et particulièrement, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, les spiritains de la Congrégation du Saint-Esprit, qui sont moins connus que les Pères Blancs, qui sont très présents au Soudan français. Alors eux, ils apprennent les langues locales dans le but d'évangéliser les populations. Ils apprennent les langues locales pour pouvoir traduire les catéchismes, éventuellement quelques extraits des évangiles, mais surtout les catéchismes, dans un but d'évangélisation. Donc on est dans une autre approche de la question linguistique.
Est-ce que on se met à traduire très rapidement, par exemple, des extraits des évangiles ou de la Bible dans des langues africaines?
Alors, non, en fait. Enfin, oui et non. C'est-à-dire, on traduit très rapidement des catéchismes, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est vraiment le béaba de la doctrine, de ce qu'on doit enseigner quand on convertit.
Et puis c'est très prescriptif.
Voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire,
voilà la bonne vie, voilà le péché.
Voilà, on traduit quelques prières, donc par exemple le « Je vous salue Marie » est très vite traduit, parce qu'il est aussi, on pense facilement, compréhensible, etc. Mais il y a pas, on n'a pas de traduction de la Bible à cette époque-là dans les langues africaines. Et puis ce sera plutôt les protestants qui feront ça plus tard. En fait.
Eh ben merci beaucoup Cécile Van Den Haven pour être venue nous parler de la bouche même des indigènes. Je reprends votre titre que vous-même vous aviez emprunté à ce très étonnant Moussa Travelé, dont on peut se dire que le nom était déjà tout à fait symptomatique, à moins que ce soit un pseudonyme, je n'en sais rien. Votre livre est paru aux éditions Vendémiaire. Il est sous-titré « Échanges linguistiques en Afrique coloniale ». C'est un livre donc à la fois d'histoire et de sociolinguistique. Merci bien d'être venu nous en parler dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouteloup, Marjorie Bertin, Yvan Amar.